Chapitre 3. Dents de cheval et bon toutou. Le samedi matin, Henry James reçut un mot de John Hay par messager lui demandant de passer le voir 5 minutes dans l'après-midi, à l'heure qui lui conviendrait, parce qu'il avait à lui parler. James se présenta donc à l'imposant hôtel particulier au coin de la 16e rue et de H Street après le déjeuner, mais pas trop près non plus de l'heure du thé pour ne pas placer Hay dans l'obligation de l'inviter à rester. À peine James eut-il donné son chapeau, son manteau et sa canne à Benson que Hay surgit de son bureau, lui serra la main en le remerciant de s'être déplacé et le conduisit au salon.
« J'admire depuis longtemps l'alliance de marbre et de pierre que vous avez choisie avec Clara pour la décoration de cette pièce »,
remarqua James en s'installant dans le profond fauteuil en cuir que lui désignait Hay.
« Ah oui !»
répondit ce dernier en regardant distraitement autour de lui.
« Il y a un marbre africain, un Aurora Pompadour, si je me souviens bien, et de l'onyx du Mexique. »
« Le choix le plus raffiné est sans doute celui de la cheminée de la bibliothèque, en marbre jaune avec son âtre rosé. »«
C'est vrai. J'avoue que la dalle foyère a été très difficile à trouver. Les pierres étaient soit trop rouges, soit trop roses, soit trop... je ne sais quoi. Nous avons choisi pour finir un porphyre très doux, tirant sur le rouge appelé boisé d'Orient, je crois. » « Je vous offre quelque chose à boire, Harry ?»«
Non, merci. Je me suis arrêté chez vous au milieu de ma promenade quotidienne. La marche libère mes pensées. J'ai en tête une nouvelle pièce, mais pas encore assez définie pour en parler. »
Se dépêcha-t-il d'ajouter pour éviter de discuter de son travail.
« Dans ce cas, je regrette doublement de vous voler un peu de votre samedi après-midi, mais je me devais de vous avertir. » »«
M'avertir de... »
Vous avertir et vous présenter mes excuses. Monsieur Holmes et vous allez recevoir une invitation à un petit dîner que j'organise demain soir dans mon humble demeure. En toute simplicité. Juste Adams et quelques amis. Je vous demande très sincèrement de me pardonner de vous prévenir ainsi au dernier moment, d'autant que...
Que ? Murmura James.
D'autant que vous m'avez demandé de ne pas ébruiter la nouvelle de votre retour. Mais c'était il y a presque 2 semaines, Harry. Vous savez à quelle rapidité les nouvelles circulent dans cette petite ville malgré nos efforts.
Bien sûr. D'ailleurs, je suis enchanté d'apprendre qu'Adams est rentré, et je me réjouis de le voir.
Il prétend qu'il ne sort jamais, dit Hay, visiblement la tête ailleurs. Vous savez comme moi que c'est totalement faux. Henry, il est vrai, organise beaucoup moins de grands dîners qu'autrefois, mais il sort. C'est simplement un genre qu'il se donne. Il cultive une réputation d'ermite.
En cela, je lui ressemblerai plutôt. Et quels seront les autres invités? King n'est pas encore de retour à Washington, je crois.
Pas que je sache. J'ai envoyé un câble à l'Union Club, son club à New York, mais je n'ai pas reçu de réponse. Il est fort probable qu'il rampe 100 mètres sous terre quelque part au Mexique, plongé jusqu'au cou dans les pépites d'or ou les diamants.
James attendit la suite.
« Je reçois les suspects habituels !»
continua Hay. James savait très bien d'où venait cette plaisanterie. Ils avaient entendu la réplique dans une pièce de théâtre médiocre, une sorte de mélodrame léger, qu'ils avaient vu ensemble à Londres. Depuis lors, John avait la manie de répéter cette ineptie dès que l'occasion se présentait. « Nous inviterons les suspects habituels, sachant à quel point le cercle social des Adams et des Hay était restreint à Washington. » James entrevoyait néanmoins ce qui amusait tant son ami dans cette phrase.
Don et Lizzie seront là, poursuivit Hay. Lodge et Nanny aussi, bien sûr. Et Adams, évidemment, puisque j'organise ce dîner pour fêter son retour. Ah, et puis quand vous avez demandé des nouvelles des enfants la semaine dernière, je vous ai dit qu'Alice, Hélène, Clarence et Dell étaient tous au loin dans leurs internats respectifs. Mais l'Académie Saint-Paul relâche Dell pour le week-end, et Hélène sera là aussi.
« Formidable !» dit James, qui avait horreur de la présence des enfants au dîner, même de grands enfants presque adultes. « Cela fait trop longtemps que je ne les ai vus. Vous m'avez écrit récemment que Dell avait poussé d'un coup. »
Adelbert, dit Dell, âgé de 17 ans, avait toujours semblé à Henry James, et aussi probablement à John Hay, son père, être un garçon lent et sans grand intérêt. Mais James n'avait pas vu les 4 enfants Hay depuis au moins 5 ans, et cela à l'occasion d'un voyage de la famille en Europe qui s'était abattu au grand complet sur Londres.
« Ah ça, oui, incroyable, on peut dire qu'il a grandi !»
répondit Hay en riant,
Dell mesure 1m85 et pèse plus de 100 kilos. Il s'est découvert une vocation d'athlète à Saint-Paul. Il entre à Yale cet automne, où il rêve d'intégrer l'équipe de football. Le football américain, Harry, vous connaissez? Ce jeu dans lequel on tape rarement le ballon avec les pieds.
Tiens, pas comme au football ordinaire alors?
Du tout, ça n'a absolument rien à voir. Les règles ont été mises au point il y a une dizaine d'années à partir de celles du football européen et du rugby. Bon, surtout du rugby. Et formalisées par un certain Walter Camp, jeune étudiant à Yale à l'époque. Il est à présent directeur sportif et entraîneur en chef, je crois. On ne jure plus que par le football dans les meilleures universités, Harry. Harvard et Yale rivalisent sans merci et organisent un championnat annuel. L'année dernière, un grand joueur d'échecs de Harvard du nom de Lorin Deland a inventé une manœuvre d'attaque. Une stratégie offensive appelée le Flying Wedge. Pas la moindre idée de ce que cela veut dire, mais Yale a tout de même réussi à gagner 6-0. Dell a hâte de jouer sous la direction de Walter Camp.
Bien. Et Hélène aussi sera là demain soir? Demanda James, ne sachant plus comment se dégager de cette conversation assommante sur le sport. Elle a, quoi, 18 ans?
Oui, et elle se passionne pour l'écriture de poésie et même de fiction courte. Elle va vous poursuivre pour vous en parler. Ne vous laissez pas faire, Harry.
Oh, je me souviens d'elle à 13 ans quand vous êtes venu à Londres. C'était une jeune fille charmante et intéressante. Je ne me plaindrai pas du tout de discuter avec elle de sujets littéraires.
Je veux surtout faire rencontrer Sherlock Holmes à Adams,
reprit Hay en retrouvant un ton plus grave.
C'est la raison principale de ce dîner. Ce qui ne signifie pas qu'Adams n'a pas hâte de vous voir, Harry. Il était tout à fait désolé de vous avoir manqué lors de votre première semaine à Washington. Mais je ne savais pas trop comment lui présenter tout cet imbroglio autour de Holmes. À votre avis, verrons-nous arriver Sherlock Holmes ou Ian Sigerson demain soir?
À qui avez-vous adressé votre invitation?
À Monsieur Holmes.
Alors, logiquement, c'est Monsieur Holmes qui viendra.
Ah oui, j'oubliais,
reprit Hay en raccompagnant James à la porte.
Nous avons aussi invité le gamin, comme disent toujours Adams et Wendells.
Le gamin? Ah! Vous voulez dire? Ah oui? Ah non? Mon Dieu, j'oublie toujours qu'il vit maintenant à Washington.
Je lui ai fait promettre de bien se conduire, ajouta Hay.
James eut un sourire ironique qui ne masquait pas l'amusement qu'il anticipait.
Pour ça, nous verrons bien. Nous verrons bien.
Ayant reçu le carton d'invitation au nom de Monsieur Sherlock Holmes pour le dîner du dimanche chez les Hay, l'intéressé se présenta à la soirée sous cette identité à 20h comme indiqué. Ses deuxième et troisième mâles l'ayant rejoint par l'entremise de l'ambassade de Grande-Bretagne à Washington, il avait pu revêtir sa tenue de soirée londonienne, que de pinoirs et souliers vernis souples, mais pas autant que les trop flexibles chaussures de jazz capedio que prisait tant la jeunesse pour danser toute la nuit, cape noire doublée de rouge carmin, haut de forme de 16 cm en soie de qualité supérieure, gilet classique à revers échancré, chemise de soirée d'une blancheur parfaite à col haut, surtout pas à col cassé, et, puisqu'il s'agissait d'un dîner et non pas d'un bal, sans gants blancs. Les autres convives de sexe masculin portaient aussi l'habit, aucun n'avait adopté le smoking, tenue moins formelle récemment introduite en Amérique et que Holmes jugeait vulgaire. Une fois les présentations faites par Hay, Holmes ne put qu'admirer la queue de pie de Henry Adams, de loin la plus vieille et vénérable de l'assemblée, et aussi la plus belle, battant de loin celle de Henry Cabot Lodge, flambant neuve, qui devait pourtant avoir coûté 5 fois le prix de celle d'Adams. Le seul convive qui ne semblait pas être né dans un frac était Dell, le jeune fils de Hay, un grand gaillard massif et puissamment bâti dont l'habit semblait prêt à craquer aux coutures. Les dames étaient au diapason, sans une seule fausse note, portant ce qu'il y avait de mieux en matière de haute couture franco-américaine. Les convives n'eurent que quelques minutes après les présentations pour échanger quelques mots, puis le dîner fut annoncé. Holmes admira la salle à manger de gala. Il avait dîné un peu partout dans la haute société en Angleterre et en France, avec le prince de Galles et le roi de Scandinavie, mais jamais il n'avait vu de pièces, de lustres, de tables aussi magnifiques. C'était une salle immense qui aurait pu facilement accueillir un banquet du département d'État de 50 personnes, ce qui rendait d'autant plus admirable l'art avec lequel Clara Hay l'avait mise en valeur pour seulement 12 convives, 4 femmes et 8 hommes. Afin de compenser ce déséquilibre entre les sexes, une savante alternance avait été arrangée et les centres de table, ravissants mais bas, ne cachaient pas les visages. Une fois que tous eurent trouvé leur place, il semblait y avoir un valet de pied en habit pratiquement derrière chaque chaise, Holmes prit le temps d'admirer avec quelle subtilité les invités avaient été placés. Le bout de table n'était pas occupé par leur hôte John Hay, comme on aurait pu s'y attendre, mais par Henry Adams. C'était l'invité d'honneur et on marquait ainsi que ce dîner était organisé pour son retour. Du moins, c'était ostensiblement la raison, mais Holmes soupçonna que cela rendait aussi moins visible le coussin supplémentaire qui surélevait Adams sur son siège et permettait au petit homme chauve de s'asseoir à la même hauteur que les autres. À sa droite venait d'abord Henry Cabot Lodge, tout nouvellement élu sénateur du Massachusetts, impeccable, moustache et barbe taillée à la perfection, mais regard glacial. Puis la robuste mais néanmoins vive Clara Hay. Robe en satin de soie bleu roi à motif de plumes de paon grenat, manches en velours et rubans du même rouge, qui aurait été follement originale si elle n'avait pas été mise à l'honneur dans le numéro de mars du Harper's Bazaar. Ensuite était assis le sénateur de Pennsylvanie, James Donald Cameron, dont les yeux sombres étaient aussi tombants et tristes que son épaisse moustache. Sherlock, à sa droite, se trouvait face à Henry James. Il n'y vit pas le fruit du hasard, car étant installés ainsi en position centrale, ils étaient bien placés pour alimenter la conversation. Après Sherlock, le jeune Del Hay, gauche mais souriant, était de toute évidence habitué à dîner en élégante compagnie et ne se laissait impressionner ni par Henry Adams, ni par le sénateur Cameron, ni par Henry James, ni par le milliardaire au regard froid Henry Cabot Lodge, récemment élu sénateur. À l'autre bout de la table siégeait l'autre invité de marque de la soirée, Theodore Roosevelt, commissaire au recrutement des fonctionnaires. Holmes ne savait pratiquement rien de lui, mis à part que leur hôte et les Adams avaient pris l'habitude de donner à Roosevelt, qu'il connaissait depuis des années, le sobriquet « le gamin ». Grâce à son sens de l'observation, Holmes en savait pourtant déjà beaucoup sur Theodore Roosevelt. Rien qu'à voir la manière dont il aidait Ellen Hay à prendre place à table avant de s'asseoir lui-même, on devinait un être profondément agressif. Petits yeux embusqués derrière son pince-nez, moustache militaire, rangée de dents proéminentes en haut comme en bas, des dents de cheval, et corps puissant et compact tendu comme un ressort, plus massif même que celui de l'impressionnant Del Hay. Avec son sourire des talons hennissants, il semblait prêt à ruer sauvagement dans les brancards. Ou à ne faire qu'une bouchée des personnes présentes, songea Holmes. Assis à la gauche de ce phénomène, Hélène, la fille de John Hay, âgée de 18 ans, offrait aux yeux de Holmes, toujours objectif en ce domaine, un bel et rare exemple de la nouvelle jeune fille américaine telle qu'idéalisée par les illustrations de Gibson, long cou blanc, cheveux ramenés au-dessus d'un front parfait, en un large chignon espiègle, la robe de mousseline dénotant la modernité d'une jeune fille à la fois sportive et bien faite, taille fine et fière allure, rayonnant de santé et d'intelligence. Face à Holmes, le crâne dégarni de Henry James offrait un miroir particulièrement brillant aux bougies. Holmes constata que l'auteur était dans son élément malgré les titres de gloire des autres convives, qui cumulaient toutes les distinctions possibles, puisqu'on comptait entre deux sénateurs, un descendant d'une lignée de présidents des États-Unis, plusieurs des plus grandes fortunes américaines, pas moins de 4 historiens célèbres, un jeune cannibale énergique à la denture chevaline, sans parler des 3 plus belles femmes qu'il eût été donné de voir à Holmes depuis des années. Les Hay avaient donné à James le choix de la beauté aussi bien à sa gauche qu'à sa droite, avec Ellen Hay d'un côté et Nanny Lodge de l'autre. Nanny Lodge, assise entre Henry James et John Hay, était ravissante, apprêtée à la mode de cette belle époque. Mince, peau claire, taille de guêpe, main charmante, visage aimable. Mais le trait le plus frappant de cette superbe femme de 43 ans était ses yeux. Des yeux que le docteur Watson aurait qualifiés d'ensorcelants et dont Margaret Chandler aurait décrit la couleur comme étant celle du ciel quand les étoiles commencent à paraître. Ses yeux n'évoquèrent rien d'aussi poétique à Holmes en ce dimanche 2 avril 1893, au moment où il s'arrêta sur eux. Nanny était tournée sur sa gauche pour parler à John Hay et n'eut pas conscience de l'inspection brève à laquelle la soumettait le détective. Il engrangea dans sa mémoire l'étrange et douce intensité du regard de Madame Cabot Lodge et ne s'en souvint que des années plus tard quand son nouvel ami, le peintre John Singer Sargent, se lamenta de ne pas avoir eu l'occasion de peindre le portrait de Nanny Lodge en disant « Je l'admirais tant que j'aurais probablement su rendre un peu de la bonté et de l'intelligence de son expression et le bleu inoubliable de ses yeux. » Rien n'était moins sûr. Après Nanny Lodge et John Hay, très animés et souriants, et à côté de M. Adams en bout de table, se trouvait la vraie beauté de la soirée, Lizzie Cameron. La morose femme du sénateur Cameron était, d'après ce que lui avait confié Henry James alors qu'il se rendait à pied chez les Hay ce soir-là, la plus jolie et la plus recherchée des femmes de la bonne société washingtonienne. Sherlock Holmes, malgré une relative indifférence, comprit pourquoi. La robe de Lizzie Cameron se démarquait par une simplicité qui ne la rendait que plus originale. Elle avait les épaules découvertes, des bras élégants et la peau d'une blancheur délicate. Ses doigts effilés semblaient avoir été conçus par le bon Dieu pour caresser le visage et les cheveux des hommes. Son long cou n'était paré ni de collier ni de ruban de velours et son visage était d'un ovale parfait. Ce soir-là, les cheveux de Lizzie étaient relevés aux tempes et noués en un lâche chignon à l'arrière de la tête d'un naturel extraordinaire. Elle souriait peu, comme Holmes l'avait déjà remarqué, mais avec son visage aux sourcils arqués, ses yeux profonds et sombres, sa bouche pulpeuse, Elizabeth Sherman Cameron était l'une des rares représentantes de son sexe à pouvoir se le permettre. C'était une femme dont la beauté n'avait besoin d'aucun sourire et que même la plus austère sévérité n'altérait pas. Au cours de ces quelques premières minutes, Holmes comprit aussi à certains regards presque imperceptibles et à de fugitives réactions que Henry Adams, de 22 ans l'aîné de Lizzie Cameron, se consumait d'amour pour elle, et que leur hôte, John Hay, était lui aussi follement épris de cette femme qu'il ne regardait jamais directement. Quant à Henry James, Holmes vit, sans surprise, qu'il admirait la beauté de Lizzie comme un chat admire un bol de lait qu'il n'a pas l'intention de toucher. Henry Cabot Lodge, de son côté, considérait la beauté de l'ami de sa femme comme tout à fait naturelle vu leur position sociale. Le jeune Del Hay, qui connaissait Lizzie Cameron depuis l'enfance, ne voyait en elle qu'une amie de ses parents, et Theodore Roosevelt lui faisait la grâce de son sourire inquiétant avec l'innocente bienveillance d'un homme heureux en ménage. Le sénateur James Cameron, surnommé Don, qui allait avoir 60 ans 2 mois plus tard, semblait aussi malheureux que s'il avait réellement été cocufié par les centaines d'hommes qui rêvaient de séduire la belle Lizzie Cameron. Pour sa part, Holmes avait la certitude que Lizzie Cameron était une aguicheuse qui déployait ses charmes pour mettre les hommes sous son joug sans jamais leur accorder ses faveurs. Ni au pauvre Adams, qui, Holmes devait bientôt l'apprendre, avait fait 15 000 kilomètres pour revenir des mers du Sud sur un simple télégramme d'elle le réclamant à Paris pour se voir boudé à son arrivée. Ni au pauvre John Hay, qui, Holmes l'avait vu d'emblée, ne lui avait pas encore déclaré sa flamme, mais essuierait un rejet au premier mot qu'il prononcerait et rejoindrait Henry Adams dans les rangs de la grise légion des misérables relégués au rôle de bon toutou par Lizzie Cameron. Holmes sentait que Lizzie Cameron était une personne dangereuse et perfide. En s'excluant lui-même ainsi que le professeur Moriarty et Lucas Nadler, qui n'étaient pas présents, Holmes était tenté de penser que cette femme était la personne la plus redoutable et la plus fausse de la soirée. Sur quoi, les huîtres arrivèrent et le dîner commença.